Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall.
Lors du sacrifice d'Abraham, ce qui est en fait le sacrifice qu'a fait Abraham de son fils Isaac, qui était né miraculeusement et que Dieu lui demande mystérieusement, et donc on parle que Dieu tenta Abraham. Et c'est une traduction, mais la traduction la meilleure, c'est éprouva plutôt Abraham, testa, testa Abraham. Et nous comprenons bien ce sens, nous qui, l'été dernier, avons peut-être regardé plus ou moins les Jeux Olympiques de Paris, et nous avons assisté à des épreuves sportives. Alors, les épreuves sportives en question visaient à aller au-delà de ses limites et de pouvoir donc dépasser ses limites, comme on l'a vu pour le saut à la perche avec un Suédois, et comme on l'a vu particulièrement ici avec Léon Marchand, le Toulousain. Et je nage dans les mêmes lignes que lui dans le club des Dauphins. Je dois préciser que c'est pas en même temps. Mais je nage avec lui quand même. Bon, c'est une épreuve sportive, là, et il a été magnifique avec ses 4 médailles d'or, et particulièrement la nage papillon, qui était assez extraordinaire. Donc, on voit très bien ce que c'est qu'une épreuve qui est envie de nous dépasser nous-mêmes, et Dieu donc a éprouvé ainsi Abraham pour tester un petit peu sa foi, ce qui ne laisse pas de nous poser aussi des questions. Mais bien, par exemple encore, on peut dire que la pomme de discorde que constitue ou qu'a constitué l'avant-dernière demande de notre Père, telle que la traduction ancienne et la traduction nouvelle l'a présentée, aurait pu être évitée si on avait traduit « épreuve » au lieu de « tentation ». Et vous savez, ne nous soumet pas à la tentation, qui était la précédente traduction et qui posait un petit peu problème. On est revenu à une traduction plus ancienne et ne nous laisse pas entrer en tentation. Le sens, en tout cas, paraît le suivant, ne nous conduit pas, ne nous fait pas entrer dans l'épreuve, c'est-à-dire négativement, de ne pas succomber donc à cette épreuve. C'est la réaction normale de l'homme face à une situation qui est une participation à l'épreuve messianique lors des ténèbres dont parle Jésus. Et si le Christ a pu demander à son Père de lui épargner la coupe de cette épreuve, de son heure, comment rougirions-nous de formuler une demande pareille ? Donc, solliciter des épreuves manifeste une prétention qui revient à tenter Dieu. Et par contre, un aveu de notre faiblesse est donc naturel à condition que nous agitions, que nous ajoutions, mais délivre-nous du mal ou délivre-nous du mauvais. Donc que ta volonté soit faite, non la nôtre, du moment que nous ne faisons pas le jeu de celui qui cherche à nous faire tomber. Donc ce soit vraiment une épreuve qui nous fasse grandir et non pas une trappe dans laquelle Dieu voudrait nous faire tomber. Le malin peut exactement voudrait nous faire tomber. Dieu veut donc procurer à son ami Abraham l'occasion de lui prouver héroïquement son amitié. Vous savez, c'est un peu l'amitié dont nous parlons beaucoup dans nos entretiens. Et par deux fois, il l'appelle par le nom nouveau qu'il lui a donné. Et d'avance, Abraham dit « Oui, me voici ». Inneni en hébreu, « voici moi » littéralement. « Me voici ». Il est sûr de Dieu, il écoute le commandement de Dieu qui est d'une précision dramatique. C'est affreux. « Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Donc Dieu ne laisse aucune échappatoire, aucun doute sur l'objet du sacrifice. « Tu l'offriras en holocauste, ton fils, ton unique. » Origène, un des grands auteurs chrétiens des premiers siècles, qui était un exégète très écouté et très reconnu, a su détailler l'accumulation des exigences divines. « Prends ton fils très cher, celui que tu aimes. » Il ne se contente pas de dire « ton fils », mais il ajoute « très cher ». Passons. Mais pourquoi ajoute-t-il celui que tu aimes? L'accumulation est extraordinaire. Mon fils très cher, celui que tu aimes. Songe combien lourde est l'épreuve. Ces appellations d'amour et de tendresse, encore et toujours répétées, rendent plus vifs les sentiments d'un père. Le souvenir vivant de cet amour fait hésiter la main du père qui doit immoler son fils. Toute la cohorte de la chair se dresse contre la foi de l'esprit. Passe encore, Seigneur, c'est toujours Origène qui parle, hein, que tu fasses mémoire d'un fils à son père, mais que tu l'appelles très cher, celui que tu ordonnes d'immoler. C'en est assez pour le supplice du père. Tu ajoutes encore celui que tu aimes. Ce qui rend le supplice pour le père trois fois plus grand. À quoi bon en rappeler le nom propre, Isaac? Abraham pouvait-il ignorer que son fils très cher, celui qu'il aimait, s'appelait Isaac? Donc, les précisions sont terribles, mais Abraham ne recule pas. Pour maintenir et magnifier son attachement à Dieu, Abraham se voit poussé à sacrifier son attachement le plus légitime au fils miraculeux pourtant que Dieu lui-même lui a donné et a accepté d'aller vers cette montagne où il doit immoler son fils. Le récit de la Genèse ne dit rien de la réaction d'Abraham face au commandement sanglant que Dieu lui donne. Abraham est un taiseux, comme nous dirions aujourd'hui, est un taiseux, un silencieux, un être de consentement calme et entier. Ses gestes seuls disent mieux que des paroles son oui. Abraham se leva tôt, sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac.